VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommet de cette édition du jeudi 13 octobre 2022. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo se dit acteur majeur un an après sa création. En Guinée-Bissau, le report des législatives prévues en décembre n'est plus à exclure, selon la ministre de l'administration territoriale. En Algérie, les factions rivales palestiniennes s'accordent sur des élections après 15 ans de conflit. Dans la partie magazine, nous irons en Côte d'Ivoire où vient d'être lancée une campagne pour défendre les droits des travailleurs domestiques.
C'est pas parce que tu as une servante dans ta maison que tu dois les traiter n'importe comment.
À suivre également la Minute Eco, Total Energy qui donne un mois de salaire à l'ensemble de ses employés dans le monde. Ne manquez pas les sports avec le triplé historique pour l'Égyptien Mohamed Salah en Ligue des Champions. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Au Bénin, une attaque terroriste a été repoussée mardi soir par l'armée dans le nord-ouest du pays, une région menacée par des groupes djihadistes, mais aussi criminels, alors qu'ils se préparaient à lancer une attaque complexe. Les assaillants ont été surpris par des soldats béninois et ont fait exploser une mine artisanale. Le reste des assaillants ont ensuite essayé d'attaquer les soldats béninois qui ont riposté, tuant au moins 8 terroristes et récupérant d'importants matériels de guerre, de communication et d'acquisition, indique un communiqué de l'armée béninoise. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire s'est félicité d'être devenu un acteur politique majeur un an après sa création. Ce mouvement de l'ex-président Laurent Gbagbo a su vouloir participer à toutes les élections en tant que formation de l'opposition. Éric Manirakiza.
Notre parti progresse très bien, a déclaré le porte-parole Justin Koné-Katinan, évoquant un bilan radieux à l'an 1, sans toutefois donner le nombre de ses adhérents. Ce mouvement panafricain de gauche, lancé par l'ex-président ivoirien le 17 octobre 2021, compte aujourd'hui 18 députés à l'Assemblée nationale. L'objectif est désormais de nous battre pour que dans chaque coin et recoin de la Côte d'Ivoire, notre parti soit représenté, a indiqué le porte-parole qui a aussi plaidé pour que le PPACI soit représenté au sein de la commission électorale indépendante. M. Katinan assure que le parti entend jouer pleinement son rôle d'opposant au pouvoir du président Alassane Ouattara et participera à toutes les élections à venir, régionales et municipales de 2023, puis présidentielles de 2025. Après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a abandonné le parti qu'il avait fondé, le Front populaire ivoirien FPI, à son ex-premier ministre Pascal Assinguessan. Puis il a lancé un nouveau mouvement pour ancrer la démocratie en Côte d'Ivoire, selon son porte-parole. Les résultats du PPACI aux élections municipales et régionales de 2023 seront un premier indicateur du poids politique de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire.
En Guinée équatoriale, un activiste des droits humains, Anakleto Micha-Niang, est emprisonné depuis 18 jours pour avoir porté assistance à des militants après un assaut meurtrier de la police contre le siège de leur parti d'opposition, ont annoncé ce jeudi son avocat, son épouse et une ONG. Il était détenu au commissariat central de Malabo avant d'être transféré à la prison de Black Beach, a assuré une ONG équato-guinéenne de défense des droits humains. Les actes de piraterie ont chuté ces dernières années dans le golfe de Guinée, à l'inverse du trafic de drogue qui explose, a indiqué aujourd'hui le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, commandant de la zone maritime atlantique, en présentant l'action de la marine française dans la région. Les eaux du golfe de Guinée, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres de l'Angola au sud du Sénégal, étaient jusqu'à présent considérées comme parmi les plus dangereuses au monde pour la piraterie. La justice marocaine a condamné à de lourdes peines de prison un groupe de 15 migrants soudanais arrêtés après une tentative d'entrée en force fin juin dans l'enclave espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Huit migrants ont coupé de 3 ans de prison ferme et 7 de 2 ans d'emprisonnement devant la chambre criminelle de Nador, ville marocaine frontalière de Melilla, selon le verdict rendu la nuit de mercredi à jeudi. La défense a l'intention de faire appel. Le gouvernement sud-africain a dit être extrêmement inquiet pour l'économie du pays à cause d'une grève prolongée au sein de la compagnie publique de transport, Transnet, qui entrave les exportations du pays. Les employés de la société qui assure l'exploitation du réseau de fret ferroviaire et de tous les ports de l'économie la plus industrialisée d'Afrique se sont mis en grève la semaine dernière pour demander des hausses de salaire face à la forte inflation qui rogne leur pouvoir d'achat. En Guinée-Bissau, les élections législatives prévues en décembre pourraient ne pas se tenir à cette date à cause de problèmes logistiques et financiers, selon le ministre de l'administration du territoire. Le point avec Rosine Monezero.
Nous étions à la recherche d'un calendrier consensuel. Nous avons tous constaté que toutes les conditions ne sont pas réunies pour des législatives crédibles et acceptables par tous les partis politiques, a déclaré Fernando Gomes, ministre bissau-guinéen de l'administration territoriale. Il s'est exprimé après une réunion de concertation avec les représentants des partis politiques. Selon une source proche du bureau d'appui technique du processus électoral, des problèmes logistiques sont à la base de ce report. Ils attendent l'arrivée du matériel électronique et la fin de la saison des pluies pour commencer l'enrôlement des électeurs. Les pistes sont endommagées par les fortes pluies, ce qui rend certaines zones inaccessibles. Le président Oumaro Sissoko Embalo avait dissous le Parlement en mai en raison de divergences persistantes. Il avait ensuite annoncé des législatives anticipées pour le 18 décembre qui risquent maintenant d'être repoussées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les factions palestiniennes divisées depuis plus de 15 ans signent à Alger un accord de réconciliation s'engageant à de nouvelles élections législatives et présidentielles d'ici un an. Les précisions de John Lydon.
Réunies sous les auspices de l'Algérie, les factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas et du Fatah laïque, sont tombées d'accord sur un document baptisé « Déclaration d'Alger ». Nous nous sommes entendus pour tenir des élections du Conseil législatif, de la présidence et du Conseil national palestinien d'ici à un an. Les discussions ont été positives et nous remercions l'Algérie, a déclaré d'Alger Hossan Badran, responsable du bureau politique du Hamas. 14 factions palestiniennes ont participé à cette rencontre qui intervient peu avant un sommet de la Ligue arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre. Mercredi, selon la télévision d'État, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu une visite de courtoisie aux participants afin de les encourager à sceller la réconciliation après plus de 15 ans de division. Les doutes sur cette déclaration d'Alger ont été alimentés par l'absence du président palestinien Mahmoud Abbas, qui n'est pas venu à Alger, mais se trouve au Kazakhstan.
En Iran, les manifestations déclenchées par le décès le 16 septembre d'une kurde de 22 ans qui avait enfreint un code vestimentaire a déjà fait au moins 108 morts. Selon des ONG, Téhéran accuse les États-Unis de déstabilisation et instruit les juges d'appliquer des peines sévères contre les émeutiers. Le point avec Mouamadou Mfa.
Des coups de feu et des gaz lacrymogènes ont de nouveau été tirés contre des manifestants la nuit dernière dans plusieurs villes, dont la capitale Téhéran. Pour faire face à la contestation qui ne faiblit pas, les autorités iraniennes ont bloqué l'accès aux applications Instagram et WhatsApp et lancé une vaste campagne d'arrestation. Le nombre de détenus est estimé à au moins 5500 personnes depuis le début du mouvement, selon l'agence de presse Human Rights Activist News Agency. Le président iranien a accusé les États-Unis de chercher à déstabiliser son pays. Washington et ses alliés ont recours à une politique de déstabilisation vouée à l'échec, a déclaré le président ultraconservateur Ebrahim Raisi. Les juges ont reçu pour consigne de ne pas prononcer des peines faibles contre les principaux éléments des émeutes, a rapporté jeudi le site d'information du pouvoir judiciaire en référence aux manifestations.
En Irak, immédiatement après son élection, le nouveau président a chargé ce jeudi Mohamed Shia al-Soudani de former un gouvernement. Plusieurs fois ministre et issu comme le veut la tradition de la communauté chiite majoritaire en Irak, M. Soudani a 30 jours pour former son gouvernement. Jeudi, le Parlement a élu un nouveau président à la personne d'Abdel Latif Rachid, ancien ministre de 78 ans. L'auteur d'une tuerie dans un lycée de Floride en 2018 a échappé ce jeudi à la peine de mort, un jury ayant opté après 3 mois d'un procès éprouvant pour la réclusion à perpétuité. Nicolas Cruz, dont la peine est incompressible, n'a pas manifesté de réaction à la lecture du verdict par la juge dans un tribunal de Fort Lauderdale. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le PNUD appelle à l'allègement immédiat de la dette de 54 pays vulnérables au changement climatique, dont 19 sont jugés trop risqués et exclus des marchés de la dette. Ces pays abritent plus de la moitié des plus pauvres du monde, avec une dette publique de 782 milliards de dollars en 2020. Le gros de la liste des pays surendettés se compose de pays d'Afrique subsaharienne. L'appel du PNUD coïncide avec les réunions d'automne de la Banque mondiale et du FMI. Les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres du G20 sont également en conclave. Le géant pétrolier et gazier Total Energy a annoncé jeudi qu'il compte distribuer à l'ensemble de ses salariés dans le monde un bonus équivalent à un mois de salaire. Ce bonus exceptionnel sera versé en décembre sous réserve d'accords salariaux dans les pays et filiales concernés et sera plafonné pour les salaires élevés, précise le groupe qui est touché en France par une grève dans ses raffineries. L'inflation aux États-Unis a très légèrement ralenti en septembre sur un an, mais s'est de nouveau accélérée sur un mois, malgré la baisse des prix de l'essence, et est restée généralisée, a annoncé le département du travail. Ce ralentissement est plus léger qu'attendu. Il y a encore du travail pour lutter contre l'inflation aux États-Unis, a reconnu le président Joe Biden jeudi dans un communiqué. Il a salué quelques progrès, mais estimé que les prix sont encore trop élevés.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Suite hier des matchs de la 4e journée en Ligue des Champions, ce soir en Europe.
Oui, Liverpool a étrié les Rangers à Glasgow, 7-1, avec le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, inscrit par l'Égyptien Mohamed Salah. Moussala porte ainsi son total de buts en Ligue des Champions à 38, faisant de lui le joueur le plus prolifique dans la compétition pour un club de Première Ligue. 3 buts partout entre le FC Barcelone et l'Inter Milan, remplaçant l'Ivoirien Franck Kessier est rentré en cours de match. Belle opération pour Marseille de l'autre Ivoirien Eric Bailly. 2-0 devant le Sporting Portugal. 4-2 pour Naples face à l'Ajax avec un but du Nigérien Victor Osimhen. Le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba s'est incliné 3-0 devant le FC Porto. 4-2 pour le Bayern Munich face au Victoria Plzen avec un but de Sadio Mané. 5 équipes sont assurées de disputer les 8e de finale à l'issue des matchs de la 4e journée de cette phase de groupe. Il s'agit de Manchester City, du Real Madrid, de Naples, du club Bruges et du Bayern Munich. La 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe aura lieu les 25 et 26 octobre prochains.
Les droits de télé en Allemagne multipliés par 16 pour la Bundesliga féminine à partir de 2023.
L'annonce a été faite par la Fédération allemande de football à partir de l'exercice 2023-2024 et jusqu'en 2027. Les revenus issus des droits télé pour la Bundesliga féminine apporteront chaque saison 5,17 millions d'euros bruts, soit une multiplication par 16 par rapport à la période en cours jusqu'à l'été 2023. La répartition du pactole entre les 12 clubs de première division doit encore être décidée par les instances du football allemand.
Robert Lewandowski voit Karim Benzema gagner le Ballon d'Or.
Il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or s'il ne l'annule pas, évidemment. C'est ce qu'avance l'attaquant polonais du FC Barcelone qui n'a visiblement toujours pas digéré l'annulation de la cérémonie en 2020 alors que le trophée était largement à sa portée. Pour la première fois de son histoire depuis 1956, l'édition 2020 du Ballon d'Or avait été annulée à cause de la pandémie de Covid-19 et le trophée n'avait pas été remis faute de conditions équitables suffisantes, avait précisé Pascal Ferré, le rédacteur en chef du magazine France Football, qui décerne ce trophée. Le Ballon d'Or 2022 sera remis le lundi 17 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. L'avant-centre français du Real Madrid, Karim Benzema, semble largement favori pour succéder à Lionel Messi, lauréat 2021,
devant Robert Lewandowski.
Page d'espoir VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire et les agences du système des Nations Unies veulent faire respecter les droits des travailleurs domestiques. Une campagne de sensibilisation pour la formalisation de ces droits vient d'être lancée. Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan, nous en dit plus.
Les travailleurs domestiques et la question de leurs droits. Tout d'abord, les réactions à Abidjan.
Vous voyez que les servantes, elles sont un peu maltraitées, elles ne sont pas prises en compte.
C'est pas parce que tu as une servante dans ta maison que tu dois les traiter n'importe comment, parce que tu la payes vraiment. Moi, je pense qu'il y a une loi pour les protéger.
Bon, selon moi, il doit y avoir une loi qui doit couvrir les personnels des maisons.
Il y a des abus, bon, il y a beaucoup de choses.
Le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont décidé de mettre un peu d'ordre dans le milieu et ça commence par une campagne de sensibilisation. Le directeur pays du BIT, le Bureau international du travail, précise les objectifs. Frédéric Laperle.
Notamment le droit à l'enregistrement et à la CMU, mais aussi informer et sensibiliser les ménages employeurs de ces travailleurs domestiques sur la nécessité d'enregistrer leurs travailleurs domestiques. Et dans cette campagne de lancement, à travers tout le système des Nations Unies, c'est de montrer l'exemplarité de la part du système en communiquant auprès de notre personnel sur la nécessité et leur devoir d'enregistrer leurs travailleurs domestiques.
Pour sa part, Marceline Doua, porte-parole, estime que les travailleurs domestiques méritent un minimum d'attention.
Des employeurs qui ne traitent pas bien leurs employés, nous le vivons au quotidien. Des personnes qui ont nos vies dans leurs mains, qui nous conduisent, qui accompagnent nos enfants à l'école. On veut voir nos enfants réussir et nous ne voulons pas les mettre à l'aise, c'est un peu complexe.
Malgré l'existence d'un dispositif législatif et une protection sociale qui leur assure des droits, ces travailleurs domestiques n'ont pas accès à leurs droits. Écoutons le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara.
Permettre à ces travailleurs de maison d'avoir la rémunération minimum qui accompagne leur qualification. Mieux leur permettre d'être affiliés à la CNPS pour avoir une pension de retraite à vie lorsqu'ils iront à la retraite. Et pendant qu'ils sont en activité, d'être assurés à la couverture maladie universelle.
Virginie Nguessan est consultante en droit social.
Le travail domestique s'impose aujourd'hui à tous les ménages. Par conséquent, il importe d'organiser le secteur. Mais la difficulté, c'est que généralement, ces filles ne sont pas formées. Et il n'y a pas de contrat de travail. Elles n'ont pas souvent de protection.
Une chose est d'avoir des droits et une autre est de les respecter. Il est temps de tout mettre en pratique car le travail domestique ou pas restera toujours un travail. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Émancipation de la jeune femme en Afrique par le biais du programme de sensibilisation à l'éducation des filles, un groupe de partenaires régionaux et mondiaux du secteur privé apporte leurs ressources de sensibilisation et de communication pour plaider en faveur de l'éducation des filles dans 3 pays, le Kenya, le Zimbabwe et le Ghana. Les détails avec Blanche Sanou.
Au Kenya, des partenaires du secteur privé comme Ecobank, Avanti Communication et Rotary collaborent avec le ministère de l'Éducation, la société civile et les jeunes leaders pour amplifier les messages positifs sur l'éducation des filles. L'objectif de ce programme consiste à faire changer les normes et les comportements qui empêchent les filles d'aller à l'école. Cheikh Travali est un cadre d'Ecobank.
Grâce à cette campagne, nous cherchons à atteindre principalement deux grands objectifs. Le premier consiste à supprimer les obstacles à l'accès des filles à l'éducation. Nous avons environ 52 millions de filles en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'éducation. Le deuxième grand objectif, c'est que nous essayons de mettre en contact nos experts avec ces jeunes femmes afin d'établir un large réseau.
Pour la Journée internationale des filles dans l'éthique 2022, les acteurs du secteur privé ont offert une série de programmes pour encourager les filles à embrasser des carrières techniques et scientifiques en soutien à l'une des priorités déclarées du ministère de l'Éducation pour la formation des filles. Le sportif Colin Ndiera, comme tant d'autres, soutient l'éducation des filles.
Je pense que l'éducation des filles est certainement importante dans la société, car une fille ou élève éduquée devient une femme éduquée, ce qui conduit à son tour à une société saine, une propriété familiale saine. Cela aide aussi à réduire les pratiques culturelles néfastes et à les éradiquer, par exemple, les mutilations génitales féminines.
La campagne de sensibilisation à l'éducation des filles au Kenya s'est déroulée avec une série de vidéos promues via les médias sociaux et dans les écoles, atteignant plus de 125 000 utilisateurs sur plusieurs plateformes. Écoutons l'avocate Arbe Aramu, bénévole au Rotary du Kenya.
Ma vie aurait été très différente si je n'avais pas été éduquée. Aujourd'hui, je me prends en charge et je suis capable de prendre des décisions pour moi-même. Et par extension, je suis capable d'inspirer d'autres jeunes filles à avoir confiance en l'éducation. Donc à toute jeune fille qui songe à abandonner, qui doute des fruits de ses efforts en matière d'éducation, je voudrais dire que l'avenir est brillant quand on est instruit.
Grâce à leur vaste réseau de bénévoles, les membres du Rotary au Kenya ont mené des campagnes en faveur des jeunes filles et garçons dans les écoles sur l'hygiène menstruelle et l'assainissement afin de contribuer à une participation saine à l'école.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
En Gambie, les parents réagissent aux récentes mesures prises par les autorités pour stopper l'importation de sirop contre la toux qui ont été liés à la mort de 69 enfants dans le pays. Les activistes réclament justice pour les familles des victimes. Lors d'une adresse nationale, le président Adama Barrow a interdit de nouvelles importations des produits incriminés. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le père de Fatoumata n'a plus que des images de sa fille comme souvenir.
Ça me fait tellement mal.
Quand son enfant a commencé à avoir de la fièvre fin août, l'hôpital où il l'a emmené a diagnostiqué un paludisme et l'a renvoyé à la maison en prescrivant un sirop au paracétamol. La fillette s'est éteinte une semaine après. Fatoumata avait 2 ans.
L'enfant, rien n'est passé au gorge. L'enfant ne mange rien, il ne peut rien manger l'enfant. Tellement qu'il est chaud. Il y avait même le sang qui sort vers le nez, avec la bouche.
Le fils de Mariama Kouyaté a subi le même sort.
À mes yeux, nous partageons cette triste et dévastatrice situation avec toutes les familles des 69 enfants. Nous sommes dévastés, mais nous devons prendre courage et avoir foi en Dieu.
Ces 2 enfants comptent parmi les 69 qui ont succombé en Gambie à une insuffisance rénale aiguë au cours des 3 derniers mois. Les autorités ont commencé à être alertées fin juillet. Elles ont ordonné le rappel des sirops le 23 septembre. 4 sirops contre la toux et le rhume, fabriqués par le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical, sont mis en cause. L'OMS a lancé une alerte la semaine passée et demandé que les sirops soient retirés de la circulation. Ils n'ont été repérés qu'en Gambie. Les autorités ont ouvert une enquête et annoncé d'autres mesures de sauvegarde. Adama Barrow, président de la Gambie.
Compte tenu de ce malheureux incident, j'ordonne pour une action immédiate que le ministère de la Santé travaille avec le cabinet du procureur général pour revoir et mettre à jour la loi sur les médicaments et les produits similaires, la loi sur le conseil de pharmacie et tous les autres cadres législatifs et réglementation associée.
Le chagrin partagé entre Gambiens sur les réseaux sociaux est de plus en plus teinté de colère contre cette industrie pharmaceutique étrangère, mais aussi contre le délabrement du système sanitaire national et la réponse tardive du gouvernement. Les interrogations prolifèrent également sur les raisons pour lesquelles des produits frelatés auraient échappé à toute supervision.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Sénégal, des habitants de la ville côtière de Kaya, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, ont manifesté pour le départ d'une usine de farine de poisson. L'implantation de cette usine dans cette zone qui dépend beaucoup de la pêche artisanale des vises, ses détracteurs estiment qu'elle pollue leur cadre de vie et dégrade leur environnement, tandis que l'ONG Greenpeace demande au gouvernement ouest-africain de fermer ces usines qui, selon elle, menacent la sécurité alimentaire dans la région. Sur ces accusations, le responsable de l'usine, Touba Protéines, mise en cause, dégage en touche. Babacar Diallo a été joint à Kaya au Sénégal par Abdourahmane Dia.
L'usine a eu tous ses agréments. Nous avons fait le comité technique au niveau des services techniques de Thiès le 12 février 2018. Et ensuite, un mois après, nous avons fait l'audience publique au niveau du service de pêche de Kaya, le 14 mars 2018. Et nous avons eu notre certificat de conformité environnementale. Ceci signifie que nous sommes conformes à l'environnement. Et étant donné, maintenant, un an après avoir installé et fait tout, nous avons notre agrément au niveau du ministère de la Pêche, qui nous envoie chaque année deux inspections techniques et sanitaires, et que nous avons suivies en année 2022, dont nous avons déjà l'agrément. Donc maintenant, ceci étant, et nous avons une installation de dernière génération avec des machines européennes. Je vous dis, c'est juste une cabale.
Oui, mais les populations qu'on a vu manifester disent se plaindre d'odeurs qui proviendraient de l'usine et donc d'entraver un peu la qualité de vie, du cadre de vie à Kayar. Qu'en est-il?
Ceci, comme je vous dis, c'est des comptes vérités. C'est des comptes vérités. Pourquoi? Parce que nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, une installation européenne avec une machine de traitement des odeurs qui aspire toutes les odeurs de poissons qui sont au niveau de la salle ambiante de production et au niveau des machines à hauteur de 40 000 mètres cubes d'air par heure. Les odeurs que nous avons sont traitées. Et au niveau de l'enceinte de l'usine, nous avons la direction de l'usine. Nous avons des appartements et des logements dans l'enceinte de l'usine. Donc s'il y avait des odeurs nauséabondes, nous n'allons pas vivre dans l'usine. Nous avons respecté ce que dit la loi en étant dans une zone où laisser une distance de 500 mètres. Et jusqu'à présent, depuis 2017, l'usine se trouve actuellement à plus de 2 à 3 kilomètres de la ville de Kaya.
Greenpeace vous demande au gouvernement des pays ouest-africains de mettre fin à l'industrie de la farine et du poisson, de l'huile de poisson. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? En fait, Greenpeace estime que c'est une menace à la sécurité alimentaire et aux réserves halieutiques de ces pays.
Nous travaillons de quoi? Des rebuts de poissons. Et ce que le poisson, que les déchets de poisson que nous les utilisons, nous créons de l'emploi. Regarde, moi j'ai construit des salles d'hospitalisation dans la commune, dans l'hôpital de la commune. Nous avons fait des financements aux femmes à hauteur de 100 millions dans une banque de la place. Nous finançons les associations des jeunes, les associations sportives. Et maintenant, cet emploi que nous créons, plus de 60 emplois directs, plus de 300 emplois indirects, Greenpeace va les prendre.
C'était Babacar Diallo, joint à Kaya au Sénégal.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition au Tchad prolongée de 2 ans. Le général Mamadou Debi Itno a prêté serment lundi en tant que président d'une transition de 24 mois, à l'issue de laquelle il pourra se présenter comme candidat à la présidentielle. C'est l'une des principales conclusions du dialogue national inclusif et souverain qui a pris fin le week-end en l'absence d'une bonne partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce une succession dynastique du pouvoir. Comment analyser la prolongation de cette transition au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro à la mise en onde. Lionel Gaïmard, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de vos programmes.